Combes-Laval et le paysage économique et industriel. Panoramique à pied d'une vie parfois insoupçonnée, au cœur d'une vaste impasse naturelle avec l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui.
La route est actionnée par l'eau et elle actionne quoi ?
Une balade commentée dans le cadre de l'événement Fenêtre ouverte sur Combes-Laval, réalisé le 2 juillet 2013.
Donc le Cholet, avant 1850, il passe là.
Départ depuis le lieu-dit Les Forges à Saint-Laurent-en-Royans jusqu'à Font-Laval, confins de cette immense reculée géologique.
Là, on a la preuve pour les archives.
Arrêt numéro 1, Les Forges. C'est le départ de cette balade commentée depuis ce lieu dit sur la commune de Saint-Laurent-en-Royans au bord du Cholet. Accueil de l'association et ensuite on se laisse guider dans un premier pan de patrimoine industriel sur ce site de Combes-Laval.
Au nom de l'association du patrimoine Royan d'hier et d'aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de vous accompagner tout au long de cette promenade commentée dans le merveilleux site de Combes-Laval. Et en plus, nous avons du soleil. Alors ça, c'est formidable.
Mais c'était prévu.
C'était prévu. Au sein de l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui, nous avons étudié toutes les facettes de Combes-Laval. L'archéologie, l'hydrologie, les routes, les écoles, les religions, la faune, la flore, les activités économiques. Aujourd'hui, notre promenade commentée ne concernera que les activités économiques, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, bien sûr, les industries, la forêt. Bien entendu, si nous passons à côté d'une fleur, à côté d'un site, on fera une petite discrétion, mais l'essentiel concernera les activités économiques dans Combes-Laval. Alors, en ce qui concerne la journée, nous allons partir et vers midi, midi et demi, nous arriverons au petit village de Laval. Nous pique-niquerons, puis nous continuerons la promenade jusque vers 15-16 heures. Voilà, donc je vais commencer. Est-ce que Christian va vous distribuer ?
Est-ce que ceux qui veulent, certains ont déjà une feuillet ?
Des petits livrets qui donnent le résumé de la promenade d'aujourd'hui. Alors nous commençons par Les Forges, et c'est Dany qui va commenter Les Forges.
Voilà. Quelqu'un d'autre ? Approchez-vous parce que c'est avec le bruit de la rivière, c'est pas facile d'entendre.
Alors, ce site que vous voyez ici est intimement lié au patrimoine de Combes-Laval et de Saint-Laurent. Un complexe métallurgique s'est installé durant des siècles pour faire place après à d'autres industries. Et aujourd'hui, vous avez une pisciculture et un restaurant. Pour mieux comprendre donc l'évolution de la métallurgie, je vous propose de faire un survol rapide depuis l'origine. Donc, en fait, l'origine de la métallurgie. Dans les Alpes, on compte environ, elle est connue environ 800 ans avant notre ère. Au départ, selon des méthodes empiriques, en faisant chauffer à l'extrême le minerai de fer avec du charbon de bois dans un petit fourneau en terre au ras du sol, on obtenait une masse en fusion qui s'appelait le massot. Le massot était alors vivement frappé pour en éliminer les scories, et on travaillait ce métal d'une façon beaucoup plus malléable, évidemment, et on en faisait des outils, des guerriers ou domestiques d'ailleurs, des fers de lance, des couteaux, des serpes, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelait la méthode à un temps. Ensuite, par tâtonnement, on eut l'idée d'augmenter la taille du fourneau et d'augmenter l'arrivée d'air par des soufflets. Les températures étant plus élevées, dépassent celles de la fusion du fer. On obtient alors une masse liquide qui s'appelle la gueuse, c'est la fonte. Cette fonte était utilisée sous forme de moulage pour en faire des plaques de cheminée, des marmites, des fûts de canon, des choses comme ça. Bon, dans le but de réduire le carbone qu'elle contient, ça s'appelle la décarburation, on obtient l'acier. En poussant la décarburation à l'extrême, on obtient la loupe de fer. Le haut fourneau donne donc la fonte, puis par l'affinage, de l'acier et du fer. C'est la méthode à deux temps. Voilà, ça c'est pour le survol de la fabrication, enfin de la métallurgie. Pourquoi les forges ici, à côté du Cholet? Nous sommes au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Colbert est donc contrôleur général des finances et en 1669, il vient d'être nommé secrétaire d'État à la marine. Il souhaite agrandir le parc de la flotte et passe commande de 276 navires. Donc, tout un tas de forges se construisent dans les Alpes et ici principalement, parce qu'on avait besoin pour les forges de trois conditions. On avait besoin de l'énergie, de l'eau pour l'énergie, on avait besoin du bois pour le charbon de bois et le voisinage du minerai qu'on trouvait en Musan et en Lard. Ces trois conditions étaient évidemment requises ici. Ensuite, nous sommes aujourd'hui en 1672. C'est donc la date de création des forges. Messire Charles-Louis-Alphonse, marquis de Sassenage et seigneur du lieu, décide de faire construire donc ses hauts fourneaux et des artifices pour le faire au bord du Cholet. C'est son beau-père, donc Boissieux, président de la Chambre des comptes du Dauphiné, qui est chargé de signer une convention avec les habitants de Saint-Laurent. Et cette convention est signée au château de la Bâtie, aujourd'hui disparu. Pendant 200 ans, un certain nombre de maîtres de forge se sont succédés en ces lieux. Ils y construiront un véritable complexe métallurgique avec un haut fourneau, des forges, des martinets, des fourneaux d'affinage et un bocart qui était, je vous montrerai les plans après, qui est un marteau à écraser le minerai. Leur activité ne fut cependant pas un long fleuve tranquille. Je vous propose de descendre maintenant, on va voir un petit peu une vieille carte postale entre autres. Ce sera plus facile pour vous situer un petit peu les différents bâtiments.
Du début du XXe siècle, avec les différents bâtiments qui existaient à l'époque. Alors ici, c'était cette maison là. Vous aviez à la place là du hangar, vous aviez un grand bâtiment qu'on appelait le château. Vous avez toujours le petit gîte là à l'entrée, qui était le gîte du portier. Et puis tout ça, c'est maintenant les bassins en fait. Voilà. Je me laisse regarder.
On repart de 1672,
mais bon, on a dit donc de nombreux maîtres de forge s'étaient succédés et de nombreux problèmes aussi parce que la quantité de bois nécessaire dans ces fourneaux, ces hauts fourneaux, était considérable et donc ça a entraîné beaucoup de procès avec les Chartreux, entre autres, qui étaient propriétaires de la forêt de Lente. Également, l'État avait mis en place une commission de réformation des forêts pour limiter l'exploitation des forêts, mais c'était difficilement applicable parce que chacun faisait comme il pouvait et prenait là où il y avait, en fait. Ensuite, problème de minerais. Le minerai de fer local de Musan et de Lars était devenu insuffisant en quantité et en qualité. Donc, il a fallu trouver une autre source d'approvisionnement. Ils sont allés à Alvar, dans le massif de Beldon. Et problème d'acheminement, il fallait descendre le minerai sur des bateaux sur l'Isère, avec des gabarres, des bateaux à fond plat. Problème également pour amener le minerai qui arrivait au port de Roche-Brune, qui est aujourd'hui disparu, qui est englouti par les eaux du fait des barrages, donc vers Saint-Nazaire. Acheminement de Saint-Nazaire jusqu'à Saint-Laurent, c'était beaucoup, beaucoup de frais, beaucoup de problèmes. Ensuite, problème de transport, celui du charbon de bois également, parce que forêt de Lente pour arriver jusqu'ici, ils avaient construit donc une machine qui a donné le nom au col, et puis après arriver transporter jusqu'à Saint-Laurent, c'était pas toujours très 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 facile.
À dos de mulet,
oui. Parmi ces maîtres de forge, certains ont cependant laissé un peu plus de traces. Les associés Blanc et Roibé, à partir de 1730, qui ont suivi donc l'activité du maître de forge qui était sous l'autorité du marquis de Sassenage. Ensuite, Louis Moiroux et la Compagnie royale des aciers en 1787, la Compagnie Link en 1807 et Victor Duval en 1851. La famille Blanc, Antoine et Joseph Blanc et Guillaume Roibé, ont rencontré également de gros problèmes d'approvisionnement en charbon de bois, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'ils ont tenté de résoudre avec des accords passés avec les Chartreux, propriétaires de la forêt. L'affaire est cependant prospère, parce qu'on va voir qu'ils ont construit une chapelle, entre autres, à côté de ce gros bâtiment, de cette grosse maison qu'on appelle château. Ils ont pu construire une chapelle pour leur commodité et celle de leurs ouvriers. Chapelle qui a été donc consacrée en 1741 par Monseigneur de Cosnac, évêque de Die, et qui était connue sous le vocable de Notre-Dame de la Garde. Mais leur activité s'est terminée malheureusement dans une succession de deuils. Joseph Blanc perd son épouse. L'année d'après, ce sont ses deux enfants qui se noient dans le Cholet. Il décède d'ailleurs peu de temps après. Ensuite, c'est le fils de l'associé Roibé qui meurt. Enfin, tout un tas de catastrophes qui font que les forges sont arrêtées quelques années. Ensuite, Louis Moiroux. Moiroux, c'est le personnage qui a créé un procédé permettant de diminuer les coûts de fabrication et d'améliorer la production du fer. Il spécialise le site de Saint-Laurent dans la production de la fonte. Vous avez vu que la fonte a été reprise et pouvait être chauffée après dans des fourneaux d'affinage pour la transformation. Donc Saint-Laurent, c'était fabrication de la fonte. Il crée avec son neveu Pochin la première société anonyme du Dauphiné, qu'on appelait la Compagnie royale des aciers, et dont les actionnaires sont d'éminents personnages, comme Monsieur Frère du Roi, le Duc d'Orléans, Monsieur de Barral, qui était propriétaire des mines d'Alvar, et des banquiers, etc. Il y avait donc des gens très importants. Nous sommes en 1787. Malheureusement, diverses imprudences de gestion et de malversation font que l'affaire change de main. Et à la veille de la Révolution, Moiroux et deux autres associés, Brizard et Rubichon, se portent acquéreurs et transforment l'affaire en une très bonne opération. Combien de temps durera leur activité à l'heure d'aujourd'hui, nous l'ignorons.
On cherche.
Toujours est-il qu'en 1805, trois associés, Ling, Thierry et Bérard, sous le nom de la compagnie Ling, reconstruisent le haut fourneau, remettent en état tout ce site, et sont également adjudicataires de la construction de la première route qui relie le col de la machine au port de Roche-Brune en passant par les forges. 1851, c'est Victor Duval, le dernier maître de forge connu. En 1853, il y a eu de très très fortes crues qui ont inondé une partie des bâtiments. Donc il obtient l'autorisation de modifier le cours du Cholet. Alors, Pierre vous montrera tout à l'heure, si vous voulez, on ira voir, et on le voit sur ce plan, d'ailleurs. On le voit sur un plan. Ça a été très important, hein, parce que des travaux quand même importants. Voilà. Et puis, au cours de toutes ces années, la métallurgie connaît aussi une évolution importante. Et l'affaire n'est plus rentable. Donc, ces biens seront vendus en 1860. Ce sera donc le dernier maître de forge. Il y a eu encore toute une succession de propriétaires qui, bien souvent, n'exploitent pas directement le site. C'est plus des placements qu'ils font. Et selon nos recherches, c'est un notaire de l'Oise, Victor Chartier, qui est le dernier propriétaire en titre connu, que l'on situe à peu près l'arrêt définitif des forges, donc en 1886. Depuis l'avènement du coq charbon minéral, le procédé du charbon de bois n'est plus rentable. C'est ce qui fait que beaucoup de sites ont fermé. Quoi. Les forges vont néanmoins rester un site qui attire des industriels comme la tournerie Magnan, et plus particulièrement deux générations de Bérard qui développent l'usine de tournerie et feront les premiers essais de fourniture d'électricité pour les riverains grâce à la turbine de l'atelier de tournerie. Ensuite, la tournerie existante en ces lieux, du fait de l'apport d'électricité, quitte le site pour aller à Saint-Laurent dans un site beaucoup plus rationnel, et les forges sont abandonnées au début du XXe siècle.
Et en 1972, je le dis parce que la modestie de Daniel Blanc étant extrêmement forte, en 1972, Daniel Blanc, descendant de Bérard, avec son époux Pierre Blanc, reviennent sur le site. Et c'est eux qui installeront les bassins, parce qu'ils vont se consacrer et créer la pisciculture. Et Daniel crée le restaurant La Table des Forges. Voilà.
C'est beaucoup plus de ça. À l'origine, il y avait un café dans le fond, là, un petit bistrot. C'était plein de familles, là. L'artisanat, en fait. Et là, il y avait un petit bistrot dans le fond. Et ça, vous l'avez pas connu? Non, on l'a connu comme ça.
Moi, je suis arrivée en 76 ici. Alors,
voilà, en 72, on a commencé. Vous voulez faire un petit tour si vous avez des questions? Si je peux répondre?
Le moulin Romé.
Alors, le moulin Romé était derrière. Derrière, là.
Moulin.
Voilà, derrière les bâtiments.
Tu peux dire deux mots sur le moulin?
Le moulin Romé, il a été vendu. Alors, c'est vrai que le notaire, le fameux notaire Chartier, maître Chartier, quand il a acheté l'ensemble en 1880 et quelques, 1860, pardon, il a revendu ça un peu. Il a morcelé, si vous voulez, la propriété. Donc, il a vendu en premier une partie des bâtiments derrière, qui était le moulin à farine, il a vendu ça à un monsieur Tanchon, qui a ensuite revendu à deux autres cognés faisans, qui a ensuite revendu à d'autres propriétaires. Toute cette partie devant a été vendue un peu plus tard. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a eu un morcellement de toute la parcelle.
L'emplacement de la chapelle, est-ce qu'on peut...
Alors l'emplacement de la chapelle, ce qu'il en reste, alors tu vois, elle était là en fait. Là, entre cette grosse maison. Parce qu'il y a un espace là, et elle était par là. Ce qu'on a pu déterminer.
Oui, ce qu'il en reste.
Il n'y a plus rien.
La grosse maison était où?
Il n'y a plus rien. Là.
Viens voir.
Pardon.
La disparition de ces bâtiments, du coup.
Il y a eu. Les gens sont partis. Il n'y avait plus d'activité.
Oui, mais du coup, pourquoi on a pas gagné?
Parce que c'est tout effondré.
C'est ça, Dani. Ça a disparu dans quelle année, ça?
Ben là, on a détruit en 73, par là.
Ah oui. 73, moi, je l'ai connu, à l'état de ruine. Ça,
voilà. Il y a eu après la guerre, il y a eu... Ça avait été occupé par les chantiers de jeunesse, ça avait été... Voilà. Donc, il n'y avait plus rien. On n'a rien pu sauver. On aurait fait, mais là, ce n'était pas possible. Le toit s'était effondré. Enfin, bon... Là, bon, on l'a trouvé comme ça, mais on a été obligé de la rabaisser pour faire le resto, comme ça. On avait baissé d'un étage. Tout ça n'existait plus, hein, il n'y avait plus que...
Donc, sur cette ça, photo, c'est l'auberge, pardon, se oui. trouve où par rapport
c'est
à
ça
ah, oui, là, l'envers. C'est
tu le vois, vois avec un étage d'accord. en moins.
Voilà. C'est inversé, les, voilà. les bassins sont en bas.
Ouais.
Le fonctionnement des martinets, vous allez en parler, parce que moi, j'ai aucune idée de comment ça...
Je vais vous faire passer, voilà, un plan qui date de 1863, où vous avez l'emplacement des différents fourneaux. Vous allez voir, il y avait le bocard qui était par là. Je vous laisse passer. Et puis là donc c'est la photo que beaucoup de voilà beaucoup de monde connaît. Elle est au bout là-bas.
On peut continuer voir un petit peu le point de vue et c'est Pierre qui va prendre le relais hein, pour nous expliquer un petit peu les bassins.
On a c'est occulté maintenant, mais il y avait donc une retenue au-dessus là qui permettait à faire tourner ce martinet de temps en temps. Alors on va avoir l'autre réserve d'eau. Elle est construite. Il y a un mur là-bas. Et elle permettait donc de faire tourner des machines bien plus bas, là-bas, avec probablement un martinet. Vous avez donc le bâtiment d'origine des forges. Les plus vieux murs sont ici. Et donc le chalet, avant 1850, Il passe là, et il ressort évidemment plus bas. Et
c'est là qu'il inonde.
Et il casse probablement une partie des bâtiments. C'est à la suite de ça que les travaux ont été faits pour rectifier le chalet. Et ils ont fait des terrassements sur 70 mètres de long à l'époque. Ils ont certainement mis la terre de l'autre côté. Ils ont fait passer le chalet de l'autre côté. On a les... Non. On en a la preuve par les archives.
D'accord.
On a mis 30 ans à découvrir tout ça.
Et ils ne sont plus là. S'il y a des trucs.
S'il y en a encore.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché sous les trucs, là?
Alors là, vous avez une conduite.
C'est la conduite, c'est pas la roue
qui est une roue de pêche, qu'on appelle ça une roue de pêche, une roue à aube. Hein,
voilà. Oui, ben on la voit.
Elle est là-bas, ouais.
Ah.
Elle a servi probablement au départ de l'électricité entre 1905 et 1910. Les premiers départs, les premiers essais en électricité.
Voilà. Ça se situe au bout là?
Alors, j'ai du mal. Alors, je pense, malgré tout, il y a eu tellement de changements que si cette route de pêche, elle ne vient pas de là, elle n'est pas là. C'est plus ancien. Il faut voir les choses probablement comme ça. Et le barrage, j'espère que c'est comme ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. La route de pêche, si on pourrait la mettre, il faudrait la mettre là maintenant. C'est comme ça qu'il faut voir.
Et donc la roue
donc il y avait un bâtiment de l'autre côté.
Mais le problème, c'est que sur les gravures, gravures de l'époque...
Oui.
Il faut les voir à l'envers, il faut les voir à travers un miroir.
J'ai essayé.
Ah, c'est si, c'est à l'envers.
Donc, c'est inversé,
parce que c'était gravé, c'est voilà, inversé. Voilà, c'est inversé. Voilà.
D'accord, c'est inversé. Et de l'autre côté,
alors,
l'eau. Vous avez...
Alors,
vas-y,
oui.
T'as encore quelque chose à dire?
Non, parce que c'est difficile à...
Donc, la roue est actionnée par l'eau et elle actionnait quoi?
Une génératrice qui permettait de faire l'électricité.
Ah oui, d'accord.
Alors, ça a été les premiers démarrages de l'électricité dans le coin.
Ah d'accord, on disait, je sais plus combien.
1800. Et avant, c'était le martinet.
Vous avez plus de questions à poser, on va continuer sur le prochain site. Vous nous excusez, mais on est en temps bien défini. On va essayer de respecter. Sans pour autant vous empêcher de...
suivre cette balade découverte et commentée autour du patrimoine économique et industriel du cirque de Combes-Laval. Un itinéraire organisé par l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui dans le cadre de Fenêtres ouvertes sur Combes-Laval 2013.